Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui a tout donné d'elle pour se défaire des préjugés. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Fatema Mzmoz, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, la Fatema?
Ça va très très bien. Merci à vous de m'avoir invitée sur votre plateau.
Eh ben, merci infiniment pour votre confiance. Alors, il y a quelques jours, vous étiez avec ma collègue Salma Khoja dans l'émission Pop-Up à travers une interview consacrée à votre exposition au Maroc. Vous êtes une artiste pluridisciplinaire. Vous êtes à la fois photographe, historienne, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Ce sont les parcours de vie, les multiples parcours de vie qui nous traversent, qui font qu'on rajoute à chaque fois dans nos expériences des expertises qui nous permettent de nous exprimer sous des formes multiples.
Et à travers la discussion que vous avez eue ensemble, en fait, ça a un petit peu éveillé ma curiosité parce que vous avez beaucoup parlé de votre histoire. Vous l'avez évoqué, en fait, pas vraiment parlé, mais vous avez évoqué votre enfance, votre histoire familiale et l'impact qu'elle a sur votre travail. Et donc, ça m'a donné envie de découvrir et de faire découvrir à la communauté de femmes d'aujourd'hui la femme derrière l'artiste, la femme derrière le nom, l'histoire de vie intime de Fatema Mzmoz.
Mais en fait, c'est vrai que chaque artiste travaille avec son vécu, en réalité. Il s'avère que dans ma pratique artistique et ma démarche artistique, j'ai voulu conscientiser au maximum l'impact que ce vécu avait sur un souci, on va dire, de réparation, un souci d'être au monde, comment être au monde sous ces multiples facettes et surtout comment être au monde avec toutes les parties qui nous construisent. Comme beaucoup de personnes au Maroc, je suis issue de la culture amazigh, de culture du coup arabo-musulmane, qui suis entre deux territoires, celui de la France et le Maroc. Je travaille avec les deux cultures, les trois cultures du coup.
Oui.
Ça m'a donné véritablement des outils pour questionner qui on est dans ce monde, quel est notre quelque part, quel est le sens de cette vie quand on partage toutes ces cultures.
Alors, à quel moment, est-ce que vous avez un souvenir peut-être d'enfant, d'adolescent, d'adolescente? À quel moment vous pensez que le questionnement a pris naissance?
Mais en réalité, les questionnements arrivent très très vite, dès l'enfance, puisque lorsqu'on traverse les cultures et qu'on traverse donc du coup l'Europe déjà dans un premier temps et qu'on arrive au Maroc et qu'on retraverse le Maroc pour arriver à Tamazight, on traverse des temporalités différentes. Et quand moi je quittais, étant enfant, quand je quittais mon appartement qu'on avait de l'eau directement dans le robinet et que je devais aller à Tamazight et qu'il fallait prendre l'amphore, Tabokalt, pour aller chercher de l'eau dans le puits. Forcément, ça vous questionne sur des manières d'être différentes et les deux vous composent parce que vous avez de l'affect pour les deux. Donc, quand on revient sur un des territoires ou l'autre, ça nous permet de questionner d'où l'on vient et encore une fois, comment notre identité se construit à partir de toutes ces expériences et alors, des gens, surtout des gens.
Alors, l'enfant que vous étiez à ce moment-là, est-ce que vous formuliez oralement ces questions à votre entourage?
Alors, on le formulait, mais évidemment pas avec le vocabulaire et pas avec la pertinence avec laquelle on le formule aujourd'hui. Mais c'est aussi parce qu'on est des fois violenté dans ces manières d'être. Moi, je me souviendrai toujours d'un souvenir d'enfance quand je suis revenue à l'école et qu'on nous a demandé de raconter nos histoires de vacances. Ben, j'ai raconté l'histoire que je vivais à Tamazight. Je suis issue de la région de Tafraout, du sud central, on va dire, après Agadir. Et quand je racontais mes vacances, une fois, j'ai une maîtresse qui m'a tiré les couettes. Elle m'a dit « Arrête de mentir ».
Ah oui, ça pouvait pas être vrai en fait.
Ça pouvait pas être vrai. Je lui racontais qu'on avait des scorpions qui avaient des sangliers qui mangeaient toutes les cultures. Je lui racontais la vie en fait, qu'on allait chercher du bois pour faire du feu, etc. Elle m'a dit « C'était pas parti en vacances, c'est pas la peine de mentir ».
Oh là là.
Alors que j'avais traversé des mondes.
Ouais. Donc, vous l'avez vécu comment?
Mais déjà, on se rend compte qu'on ne peut pas tout dire, que les gens en face ne sont pas prêts à entendre et qu'en réalité, c'est les premières expériences avec l'infiniment petit de la pensée, quand les gens sont très petits dans leur tête et qu'ils ne sont pas prêts à entendre une diversité. C'est vrai que c'est compliqué pour c'était compliqué pour un enfant. Et ce genre d'expérience s'est multipliée. Et jusqu'à ce que je puisse arriver à l'université, en fait. Et ma première démarche, c'était d'être historienne de l'art. Et j'avais pour sujet comment est-ce qu'on pouvait écrire l'histoire de l'art dans le monde arabe, et notamment au Maroc, puisque j'avais conscience qu'on avait des schémas importés, des schémas de pensée qui sont importés. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans cette thèse, je me suis rendu compte que je devenais l'objet de ma recherche. Et c'est là où j'ai compris les limites de la discipline. Donc du coup, j'ai voulu reprendre les rênes. Et plutôt que de travailler à partir de textes que d'autres ont écrits, y compris d'autres ont écrit sur la culture marocaine. Donc je vous cache pas qu'il y avait évidemment un rapport de domination culturelle dans ces écrits, puisqu'on commence tout simplement aujourd'hui à décoloniser ces écrits. Donc je me suis dit, je vais devenir sujet, je vais être le sujet de moi-même et je vais devenir artiste. Et c'est comme ça que tous ces questionnements-là que j'égrène depuis ma tendre enfance, j'en ai fait des sujets artistiques.
Alors à la maison, ça se passait comment, justement, petite?
Alors c'est très compliqué. À la maison, on est une personne et à l'extérieur, on est une autre personne puisque l'environnement est différent. Oui. Quand on était à la maison, on parlait tachlkrit, on parlait l'amazigh, principalement. Et donc du coup, on avait les codes, après les codes du Maroc qu'on connaît. Mais dès qu'on était dans l'espace public, là j'étais complètement dans une occidentalité assumée. Comme on peut l'être aussi à Casablanca aujourd'hui.
Assumé, toléré par les parents ou juste assumé par vous?
Alors, selon les contextes, bien évidemment, surtout ceux de la puberté, sont très, très compliqués, puisque d'un seul coup, vous devenez femme et c'est la loi du collectif qui reprend les rênes. Donc, ma mère, surtout, vous comprenez pas que je puisse m'émanciper. Donc, j'étais étrangère chez moi et à l'extérieur, j'étais aussi étrangère. Donc, on est toujours enfermé dans les représentations de l'autre, finalement.
Aujourd'hui, cette nouvelle génération, elle est de jeunes femmes, de jeunes filles, d'adolescentes. Elle est toujours dans cette même dynamique?
Non, du tout. Alors, sans vouloir généraliser. Donc, il y a plusieurs éléments. Donc, les personnes qui sont attachées au multiculturalisme, qui sont attachées à être dans le monde, qui sont dans une ouverture, qui sont très ancrées dans leur culture marocaine, mais aussi ouvertes sur le monde et donc, du coup, qui sont en curiosité pour l'autre. Donc, ça ne se passe plus, puisque au Maroc, aujourd'hui, on vit le monde au sein même du Maroc. Donc, cette dichotomie-là, cette dissociation-là, elle a plus lieu. Par contre, il y a des milieux qui sont très, très fermés, qui se sont enfermés finalement dans une monoculture marocaine traditionnaliste et religieuse qui ne leur permet pas de s'ouvrir sur le monde. Et du coup, là, effectivement, ça crée un enfermement qu'on retrouve aussi chez certaines personnes issues de la culture marocaine qui sont aussi présentes en Europe, en France, qui ont choisi, pour moi, qui ont choisi l'enfermement, très clairement.
Mais en fait, votre parcours démontre que malgré tout, en fait, il y avait cette grande ouverture puisque on vous a permis, et en l'occurrence, vous êtes permis d'aller... questionner, interroger, devenir l'actrice principale de vos œuvres, c'est qu'il y avait déjà cet accord moral.
Mais j'ai eu la chance d'avoir un papa extraordinaire qui était complètement dans l'ouverture. C'était déjà un grand féministe qui a été élevé par sa maman seule, comme beaucoup de, dans beaucoup de familles, et qui voulait le meilleur pour ses filles. Donc, il nous a poussé à faire des études, évidemment, et qui nous a toujours dit « le monde t'appartient, donc vas-y ». Donc, il comprenait pas trop ce que je faisais dans l'art, puisque c'est un milieu qui lui est complètement indifférent. Et donc, du coup, il a quand même été au-delà de ce qu'il pouvait imaginer, au-delà de ce qu'il pouvait faire. Et donc, du coup, ça, il a eu cette ouverture.
Et votre maman ? Parce qu'on dit souvent que les gardiennes, c'est... c'est ce que j'ai souvent entendu dans la bouche de mes femmes d'aujourd'hui, justement de cette communauté marocaine du monde. C'est que les mamans sont parfois plus compliquées à convaincre que le papa.
Bien sûr, mais bien évidemment. Disons qu'on peut donner que ce que l'on a reçu. En tout cas dans les formes. Et ce type d'amour-là, enfin, je l'ai compris beaucoup plus tard, c'était trop dur parce que c'est pas qu'elle n'aimait pas, elle voulait pas que je m'émancipe, c'est que le mode d'émancipation que je proposais, c'est-à-dire l'espace public, dans sa culture à elle, occuper l'espace public, c'est la mise en danger du groupe, c'est la mise en danger. Donc elle ne voyait que le danger pour moi. Et son propre danger aussi que je pouvais lui renvoyer. Cette prise de liberté, liberté de corps, liberté d'être dans l'espace public et dans l'espace politique, c'est quelque chose qui profondément la terrorisait parce que dans ces codes, quand on s'exprime dans l'espace public, ben, c'est une question de survie, on risque la mort. Dans la culture
on risque d'être rejeté par le groupe.
Rejeté, exclu. Donc être exclu du groupe, c'est être mort. Et au sein même du groupe, véritablement, il peut y avoir des tensions qui font que c'était inenvisageable. Donc, ma mère a lutté contre moi. Ça a été une lutte véritable. Cette émancipation, je l'ai arrachée.
Elle va comment, elle ?
Aujourd'hui ?
Oui.
Et aujourd'hui, elle a compris, elle a aussi évolué, elle a fait confiance, elle a vu les retours, elle a... Voilà,
elle s'est émancipée donc, aussi grâce
oui,
à...
Oui, oui,
c'est ça, en fait.
Oui.
Ouais.
En fait, quelque part, tout le travail que j'ai fait, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, ben, ça l'a réparé aussi. Ça l'a réparé puisque ben, finalement, je l'ai amenée sur les bancs de l'école. Puisque bien évidemment, elle était analphabète.
Et elle a
voulu ben, déjà apprendre à lire et à écrire. Donc ça, déjà, pour moi, ça a été une très grande victoire.
Elle n'a pas eu honte de l'exprimer.
Non. Et puis ce qui est très drôle, c'est que là où avant elle était très réfractaire et qu'elle voulait absolument pas entendre parler de discours, de débats, aujourd'hui c'est elle qui vient me chercher pour me dire regarde, il y a une femme qui a été initiatrice pour une association pour aider les jeunes filles dans la rue ou autre. En tout cas, elle est tout le temps à l'affût maintenant et elle en est fière. Et curieusement, je découvre une autre mère. Une mère guerrière, vaillante, voilà, qui va chercher. Et en réalité, c'était ça. Elle a toujours été cette femme-là, mais il fallait lire entre les lignes. Et en tant qu'enfant, on n'a pas les moyens. Et puis surtout, on se construit à l'opposé de nos parents. Donc, je l'avais vraiment en porte-à-faux, cette maman. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'accueille finalement sa transmission. J'accueille ce qu'elle m'apporte. Et c'est d'une très grande force, une très grande richesse parce que toute la culture liée à la mère, en tout cas à ma mère, c'est une culture qui est liée à la terre. Et Dieu sait que la terre et la pensée qui est liée à la terre est une pensée magique extrêmement forte.
Alors la grossesse aussi a été votre grossesse a été un terrain de découverte.
Oui,
et d'exploration
oui,
intense. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette grossesse ? On dit souvent que pendant, surtout la première grossesse, on dit que c'est souvent on rejoue les cartes de sa vie intérieure.
Oui, bien sûr. Je pense que dans cette espèce d'extension finalement, ce ventre qui enfle. on est dessaisi de son corps. On ne vit plus dans son corps. C'est comme si on habitait chez le voisin. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme si on habitait chez le voisin et qu'on avait tout à réapprendre. Donc, du coup, ça permet d'ouvrir quelque part son inconscient et d'aller chercher tout ce dont on a besoin pour se réparer. Et pour moi, ça a été salvateur, la grossesse, véritablement. J'ai jamais été aussi heureuse que pendant mes grossesses.
Ouais.
J'ai jamais eu autant d'énergie que pendant ces grossesses. Vraiment, ça a été un empuissancement très fort. Et du coup, ça m'a permis, sur le plan de la pensée, puisque le corps a fait son travail et donc a été, pour moi, le corps de la grossesse, ça a été un corps performatif. Hein. Et du coup, a fait son travail, ça m'a permis de créer cette conversation qu'il y avait entre le corps de l'intime, le corps de la mère et celui de la mère patrie. Vraiment, alors, ça a été salvateur.
Comment ça ? J'aimerais comprendre un peu plus. Parce que vous avez dit, en fait, au début, quand j'ai évoqué la grossesse, vous avez eu un grand soupir. Et donc, moi, je l'ai lu, ce soupir, comme c'était des moments compliqués. Ensuite, les mots que vous avez mis étaient tout le contraire de ce que votre soupir a exprimé. C'est que c'était, au contraire, les neuf mois les plus productifs,
ouais,
les plus magiques, oui. Etc. Oui. Exactement. Alors,
le corps de la grossesse, véritablement, c'est un corps magique. Véritablement.
Oui, c'est un corps magique, mais en même temps, ce que je ne comprends pas, enfin, dans ma conception à moi, quand on va très bien, on ne remet rien en question. C'est lorsqu'on va mal, c'est lorsqu'on passe par un moment compliqué que la remise en question se passe après. Parce que quand on est très bien, on est dans cette euphorie positive. Il n'y a pas de raison de se remettre en question ou de remettre en question quoi que ce soit. Donc comment... C'est vrai ou c'est pas vrai ? J'ai l'impression. Alors comment
vous dites, c'est vrai, ouais. mais c'est ce qui manque à ce que vous dites à
ouais.
mon sens, et vraiment en toute modestie, c'est la notion de temporalité. C'est que la remise en question, elle a tellement été là avant. C'est que la grossesse, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est ce qui m'a libérée, ça a été émancipateur, mais d'un point de vue phénoménal. C'est-à-dire que c'est un corps qui m'a donné des réponses aux problèmes que j'ai soulevés auparavant, où il n'y avait aucun territoire qui pouvait m'offrir ces réponses. Le corps de la grossesse m'a offert ces réponses.
Comment ?
Véritablement.
Justement. Concrètement.
Concrètement, ouais. Alors, il y a eu plusieurs niveaux de réflexion. Donc d'abord, de comprendre que on est dessaisi de son corps pendant la grossesse.
Ouais.
Donc ce corps appartient, c'est plus le vôtre. Toute votre vie, on vous a appris comment vous asseoir, on vous a appris comment faire. C'est un corps, donc c'est un corps culturel. Toute la vie, on vit dans un corps culturel et je pense qu'il n'en existe pas d'autre. Mais par contre, quand on est enceinte, il y a une force qui est beaucoup plus forte. Vous n'êtes plus du tout dans ce corps culturel, vous êtes dans un corps instinctif, je ne dirais pas celui de l'animal, mais en tout cas l'instinct reprend ses règles et ses droits. Donc du coup, il y a une autorité du ventre qui est là en permanence, et c'est votre ventre le chef. Vous avez beau faire ce que vous voulez, vous ne pouvez plus vous mouiller, vous ne pouvez plus mettre les chaussures comme avant, vous êtes obligé d'écarter, de faire attention à ne pas éclater le ventre. Quand vous dormez, vous voyez bien qu'on se déporte sur le côté pour laisser... C'est le ventre, c'est l'autorité. Donc, on n'habite plus dans ce corps. Et le fait d'être plus on n'est plus dans la même mécanique de la sensation. Donc, ce corps-là vous oblige à plier. Et donc, pour pas que ça fasse mal, ben finalement, on habite dans un autre corps. On se crée un autre corps et on habite dans cet autre corps.
Ouais.
Et le fait d'aller dans cet autre corps, vous avez la distance pour pouvoir regarder effectivement quels étaient les blocages et à quel endroit, ben, finalement, vous pouvez trouver des solutions. Et ce corps de la grossesse est extraordinaire pour ça, parce que vous vivez dans un autre corps que ce que l'on peut difficilement faire quand dans la vie, dans le quotidien.
Ouais. Et vous avez découvert quel blocage ?
Le premier, c'est déjà de comprendre à quel point j'avais pas à choisir, parce qu'en fait, toujours sur cette notion de construction identitaire, vu comment les discours politiques sont mis en scène, que ce soit d'un territoire, d'une rive à l'autre, c'est comme si on nous forçait à choisir finalement un camp. Et ce que j'ai compris avec cette grossesse, c'est que ben non, je n'ai pas à choisir. Je suis autant amazigh que marocaine, arabe, que avec cette culture d'accueil qui serait la culture française. Donc je l'accueille et je l'intègre aussi dans ma corporité. Donc du coup, voilà, je n'ai plus à choisir. Et cette intention qui est déguisée, qui alimente finalement le dialogue politicien, le débat politicien, j'ai compris que c'était qu'il fallait pas le prendre à cœur et que véritablement je n'ai pas à choisir. Mmh. Je suis tout ça et c'est un fait et je dois m'assumer en tant que telle. Et là, il n'y a plus aucune discussion. Il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Donc c'est finalement se réapproprier ce corps-là. Se réapproprier, ne plus vivre dans la rupture, ne plus vivre dans la fraction, ne plus être disséqué comme ça constamment, atrophié. Voilà, c'est de se dire, j'ai conscience que ça m'appartient, et je m'autorise à être tout ça en même temps. La grossesse m'a apporté ça, et c'est mon personnage de Super Oum qui m'a apporté cette force, en tout cas, de pouvoir s'assumer dans toute sa multiplicité culturelle.
Vous avez laissé donc ce là, bébé sortir tranquillement, facilement. à la fin de ces 9 mois.
Alors, la première grossesse, elle est sortie un peu plus tôt parce que j'avais commencé, parce qu'en réalité, je mets en scène le corps. Donc, je travaillais sur les stéréotypes à ce moment-là. Donc, j'avais des déguisements, et je sais qu'il y a un moment où j'ai été un peu trop loin et je me suis vue dans la glace. Et quand je me suis vue dans la glace, c'était tellement violent qu'à un moment donné, j'ai entendu une déflagration dans mon oreille.
Oui, la poche des os.
Et je regarde mon image dans la vitre, dans le miroir, pardon. Et là, je vois une coulée de sang entre mes jambes. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave qui se passe,
okay.
Que j'ai trop provoqué le corps. Mm. C'était trop tôt. Toutes ces réponses, j'ai tellement secoué ce corps que voilà, c'était trop violent, cette vision. Donc du coup, ma fille est arrivée avec un mois d'avance. Et j'ai compris, parce qu'elle est arrivée, parce que le corps a parlé, parce qu'il s'est déclenché, j'ai compris que je tenais le bon bout. Et qu'à la deuxième grossesse, j'ai préparé quasiment mes projets artistiques. Et voilà, la deuxième grossesse, c'était parfait.
Ouais. Fatema Mzmouz, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous. C'était vraiment très sympathique et un honneur de partager cette expérience.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.